On va se lever pour lire ce psaume 91, s'il vous plaît. Levons-nous. Ayez la joie d'avoir votre Bible dans vos mains. Est-ce que vous savez que c'est une grâce? Vous le savez que c'est une grâce? Je ne sais pas si vous le savez. Si vous avez le Saint-Livre sur vous, quelle bénédiction. Lisons le psaume 91, s'il vous plaît. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'azouleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, dit Dieu, je le délivrerai. Je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasirai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Prions un instant, s'il vous plaît. Notre Père, nous savons que tout ce que nous lisons est sorti de ton cœur. Puisque tu as dit que l'homme ne vivrait pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortait de la bouche de Dieu. Et nous te prions au travers de ce moment de parler à nos âmes, afin que nos vies soient véritablement celles que l'on vient de lire, de ceux qui demeurent à l'abri du Très-Haut. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous savez ce qui arrivera une fois que l'Église sera enlevée. Et vous avez des textes qui font froid dans le dos. Et beaucoup de chrétiens qui n'auront pas été sérieux avec Dieu, hélas, verront ces choses. Parce qu'ils font partie de ceux qui ne vivent pas le psaume 91. Ils vont à l'église, tout ça, ils connaissent des cantiques, ils peuvent même prêcher, tout ça, c'est pas grave. Mais ils n'obéissent pas à Dieu. Et ce matin, le titre de ma prédication, c'est la bénédiction de l'obéissance. Quand vous lisez l'Apocalypse, je ne sais pas si c'est un livre que vous lisez, il est peut-être parfois difficile à comprendre, mais regardons juste deux textes, s'il vous plaît. Il faut le lire en boucle, ce livre, pour commencer à comprendre, enfin, il faut connaître le livre de Daniel pour bien comprendre l'Apocalypse. Dans le livre de l'Apocalypse, par exemple, au chapitre 6, quand il y a l'ouverture des sceaux, c'est après l'enlèvement de l'Église. L'Église est au ciel et les sceaux sont ouverts et la colère de Dieu vient. Et ce que vous voyez aujourd'hui sur la terre ne sont que les prémices de la colère. Vous allez me dire, monsieur Gauss, c'est déjà grave. Ce n'est rien. Ça me fait mal au cœur de vous le dire, mais je vous assure que ce n'est rien. D'ailleurs, vous allez comprendre. À comparaison de ce que nous allons lire. Apocalypse, chapitre 6, verset 8, c'est l'ouverture du quatrième sceau. Regardez, verset 7. « Quand il ouvrit le quatrième sceau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait, « Viens !» Je regardais, voici, parut un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre. pour faire périr par les hommes, par l'épée, par la famine, par la mortalité et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse 9, verset 18. Tout ça, ce n'est pas dans le but de faire peur. Ça serait vraiment stupide d'en arriver là. Ce sont des choses, c'est des prophéties. C'est une révélation, l'Apocalypse. C'est ce qui va arriver une fois que les hommes n'auront plus voulu de la grâce de Dieu. Et croyez-moi, le Seigneur, il est à la porte. Apocalypse, chapitre 9, verset 18. Le tiers des hommes fut tué par ces trois fléaux. Je ne sais pas si vous vous rendez compte ce que ça représente, le tiers des hommes. Sur 7,25 milliards d'habitants qu'il y a aujourd'hui, le tiers des hommes, ça représente une quantité terrible, au moins 2 milliards. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Verset 19. Car le pouvoir des chevaux était dans leur bouche et dans leur queue, et leur queue était semblable à des serpents ayant des têtes, et c'est avec elles qu'ils faisaient du mal. Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leur enchantement, ni de leur débauche, ni de leur vol. Il y a beaucoup de gens qui disent, oui, si Dieu envoyait sa puissance, les gens se repentiraient. Écoutez, mais moi je vous dis que lorsque Dieu enverra sa puissance, les gens y blasphémeront. Alors ce matin, je voudrais parler. Alors ce que je vais vous dire, je l'ai reçu avant vendredi soir. Mais il me semble que beaucoup de chrétiens aujourd'hui ne sont pas du tout conscients. Bien sûr, ils sont conscients que ça va mal et que ça risque d'aller de plus en plus mal. Certains pensent que peut-être ça va s'arranger. Écoutez, moi je vous dis, ça ne va pas s'arranger. Ça ira de plus en plus mal. Mais celui qui demeurera à l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas celui qui est à l'église confiné dans un local, dans un lieu de culte. Ce n'est pas ça que ça veut dire. Je peux vous dire qu'il y a des gens qui sont à toutes les réunions et qui ne sont pas à l'abri du Très-Haut. Ils vivent dans la désobéissance, ils vivent dans le péché. N'allez pas croire qu'être sous les refuges du Seigneur, sous les ailes du Seigneur, pour reprendre le texte 91, c'est être à l'église. Il y a des gens qui sont à l'église et qui vivent dans la désobéissance. C'est une question spirituelle, ce n'est pas une question géographique. Il y a une grâce, une assurance, une pleine assurance, pour reprendre une expression de l'apôtre Paul, une bénédiction qui repose sur la tête des justes. Alléluia. Et vous pouvez vivre avec cette bénédiction. Vous devez vivre, nous devons vivre avec cette bénédiction. S'il y a bien une chose que Dieu veut, c'est que nous soyons remplis d'assurance, malgré tout ce qui se passe. Vous le croyez qu'on peut vivre le cœur rempli d'assurance? La Bible dit que le juste, il a de l'assurance comme un jeune lion. Jésus va revenir. Ce qui est écrit indique que vraiment nous vivons les temps de la fin. Mais d'ailleurs, bon, c'est déjà du temps de l'apôtre Paul, c'était les temps de la fin, puisqu'à partir du moment où Jésus est mort et que l'Église est entrée dans son ministère, c'était les temps de la fin. Mais là, vous en conviendrez, mes frères et sœurs, qu'il vaut mieux travailler à son salut. Et moi, je vous assure que je suis préoccupé par la quantité de chrétiens qui s'imaginent que tout va bien aller, mais qui n'obéissent pas. Parce qu'il y a des textes, par exemple dans Hébreux. Lisons ce texte dans Hébreux chapitre 10, si je ne me trompe. Il y a un texte où il est dit que Jésus va revenir une deuxième fois. Vous le croyez que Jésus va revenir? Il ne va pas revenir comme l'agneau de Dieu. Les gens, ils s'imaginent que Jésus va revenir comme la première fois. Jésus ne va pas revenir comme l'agneau de Dieu. Hébreux chapitre 9, versets 27 et 28. C'est un verset que tous les croyants aiment. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, virgule. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché, une seconde fois, à ceux qui l'attendent pour leur salut. Mais il apparaîtra une seconde fois à ceux qui l'attendent. L'attendre, ce n'est pas l'attendre, je sais qu'il va revenir. Les vierges folles, est-ce qu'elles attendaient le retour du maître? Et bien sûr, elles attendaient. Elles attendaient, mais elles n'étaient pas prêtes. Attendre, c'est dans le sens d'obéir à Dieu. Mais mes frères et sœurs, si les croyants se mettaient à obéir à Dieu, 2 jours après, il y a un réveil à Toulouse. C'est imparable, ça. Et ce n'est pas une question de présence aux réunions, d'où souvent on utilise l'expression « les chrétiens du dimanche matin », ça ne veut rien dire, ça. Ça représente quelque chose. Mais ça ne veut rien dire. Il y a des chrétiens qui ne peuvent venir que le dimanche matin, le problème il n'est même pas là. Ce n'est pas parce que quelqu'un vient à toutes les réunions qu'il obéit à Dieu, ce n'est pas parce que quelqu'un ne viendrait que le dimanche matin qu'il n'obéit pas à Dieu. Le problème, Jésus n'a pas dit « quand le Fils de l'homme reviendra, les églises seront-elles pleines de chrétiens ?» Jésus dit « quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi ?» Donc c'est l'obéissance sur la terre. Et Dieu attend vraiment cette obéissance. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus beau que l'obéissance à Dieu. Quand on n'obéit pas, c'est qu'on est aveuglé. Et le seul moyen d'obéir, c'est véritablement de porter sa croix. De dire, mais Seigneur, moi je veux faire qu'une chose, c'est faire ta volonté. Est-ce que ce matin, vous et moi, nous pouvons tous dire, oui, je fais la volonté de Dieu. J'ai mes luttes, mes combats, tati, tata, mais je fais la volonté de Dieu. C'est une question solennelle. Ce sont des temps merveilleux, en même temps parce qu'on va bientôt se retrouver aux noces de l'agneau. Vous languissez pas, je suis sûr que ça doit être bien. Vous croyez que ça va être bien, moi je n'ai jamais été, je ne sais pas comment c'est, les tables, tout ça, habillés de fin lin, revêtus. Moi je languis ce jour. Vous ne languissez pas ce jour? Moi j'y pense tout le temps, je me fais de ces films, ça m'arrive de rêver. Ça vient, vous le croyez que ça vient? Mais mes frères et sœurs, ceux qui n'obéissent pas, ils vont rester ici. Mais c'est rien. À côté de ce qui va arriver lorsque la grâce n'existera plus sur la terre. Et nous sommes là, je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes, je ne vous connais pas suffisamment. Il n'y a que Dieu qui sait. Il n'y a que Dieu qui sait si vraiment vous demeurez à l'abri du Très-Haut. Si vous demeurez dans l'obéissance, si nous n'obéissons pas, nous sommes en danger. Nous sommes en danger, mes frères et sœurs. J'ai plusieurs pensées dans mon cœur que je voudrais partager avec vous, bien sûr. Il y a un verset qui est là dans mon cœur depuis des semaines, qui vient, qui revient sans cesse. Je le cite souvent dans mes prédications. C'est ce verset que Dieu adresse à Saül par l'intermédiaire de Samuel. Lorsqu'il avait obéi, enfin soi-disant il avait obéi, il avait offert des sacrifices, c'est beau d'offrir des sacrifices, et même il avait l'intention d'offrir d'autres sacrifices, il avait même gardé des moutons, des bœufs, des boucs, tout ça, pour offrir des sacrifices, on se dit, bon ce gars il a envie d'offrir des sacrifices à Dieu. Et pourtant, Dieu va lui dire une parole qui va secouer l'Église au travers des siècles, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, car la désobéissance est aussi coupable que la divination. Et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Moi, c'est un verset qui revient presque tous les jours dans mon cœur. La désobéissance est aussi coupable que la divination. Et Saül, lui, il offrait des sacrifices. Et Dieu ne supporte pas les sacrifices qui sont faits dans la désobéissance. Quand on chantait ce matin ces beaux cantiques sur « Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers », je ne sais pas si on réalise ce qu'on chante. Est-ce que vous réalisez ce que vous avez chanté ?« Je viens dans ta présence », ce n'est pas la présence du plus grand chef d'État que vous apprécieriez. Bien, « Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers », si vraiment on captait cette parole qu'on a chantée ce matin, laissez-moi vous dire que notre vie de prière changerait. Prenons ce texte dans Isaïe. Je pensais à ce verset ce matin, c'est Isaïe 66. Isaïe 66, verset 1er. Dieu parle de sa grandeur. Vous avez remarqué que plusieurs fois, Dieu parle de sa grandeur. Ce n'est pas un complexe que Dieu a d'infériorité. Il veut que l'on sache à qui l'on a affaire. Il est tout puissant, le Seigneur. Il est infiniment grand. Regardez sur des sites d'astronomie la dimension de certaines constellations, ça fait frémir. Quand vous regardez, ils sont obligés de parler de certaines constellations à milliers d'années-lumière. pour parler de certaines constellations, ne parlons pas de l'univers. Pour parler d'une constellation, il y en a qui font 1500 années-lumière. Ça veut dire qu'en avion, il faudrait des centaines de milliards d'années pour la traverser. On ne localise pas toujours. Ésaïe 66, verset 1er. Ainsi parle l'Éternel. Le ciel est mon trône. La terre, mon marchepied. Quelle maison pourriez-vous me bâtir? Quel lieu me donneriez-vous pour demeure? Toutes ces choses, ma main les a faites. Et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Vous voyez, Dieu montre sa grandeur. Pour notre bien, c'est pour qu'on ait la joie de s'approcher de lui, pour que la prière ne soit pas une corvée, mais une bénédiction. Regardez ce qu'il ajoute. Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui souffre, qui a l'esprit abattu, sur celui qui tremble ou qui craint ma parole. Vous avez vu la suite? Vous l'avez déjà lu? Il parle de ceux qui offrent des sacrifices. Ça fait peur ce qu'il écrit. C'est Dieu qui parle, c'est pas Isaïe. Vous regardez avec moi. Celui qui immole un bœuf est comme celui qui tuerait un homme. Celui qui sacrifie un agneau est comme celui qui romprait la nuque à un chien. Ça va en crescendo. Hein? Celui qui présente une offrande est comme celui qui répandrait du sang de porc. Je ne sais pas si vous réalisez. Celui qui brûle de l'encens est comme celui qui adorerait des idoles. Il parle de chrétiens, enfin des croyants. Tout cela se complaise dans leur voix et leur âme trouve du plaisir dans leur abomination. L'honnêteté de Dieu va expliquer que oui, on peut trouver du plaisir dans le mal. Moi aussi, je me complairai dans leur infortune et je ferai venir sur eux ce qui cause leur effroi parce que j'ai appelé et qu'ils n'ont pas répondu, parce que j'ai parlé et qu'ils n'ont pas écouté. Quand vous lisez ce chapitre, oui, Dieu montre sa grandeur, mais Dieu dit qu'il est avec l'homme qui obéit. Vous entendez, mes frères et sœurs? Dieu est avec l'homme qui obéit. La faveur de Dieu, elle est sur l'homme qui obéit, sur celui qui tremble à sa parole. Oui, Dieu, le grand Dieu de l'univers, je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Il y a des chrétiens, ils sont tellement aveugles qu'ils ne prient plus. Je le dis, ce que je dis, c'est important. Je voudrais que vous le compreniez. Qui a prié? Ne répondez pas. Qui a prié pour moi ce matin? Ne répondez pas, je ne veux pas que vous leviez la main. Mais est-ce que c'est pas un devoir de prier pour les pasteurs? Je ne sais pas si vous réalisez ce qui se passe dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ, dans le corps pastoral, dans les assemblées de Dieu. Bien sûr que vous allez me dire, mais c'est à cause de l'iniquité. Oui, mais est-ce qu'on est obligé de se laisser absorber par l'iniquité? Bien sûr que non. On peut vivre dans la sainteté. On peut vivre dans l'obéissance. On peut vivre dans la grâce de Dieu. Alors je voudrais que nous comprenions bien qu'il y a des petits trucs. Excusez-moi, le mot il n'est pas bon, mais des comportements, des attitudes qui font que Dieu est obligé de dire des choses archi graves. Parce que c'est Dieu qui parle. Je pense qu'on a dû dire à Isaïe, mais Isaïe n'était pas bien. Ah, moi je suis sûr que quand Isaïe a écrit, il y a des pasteurs qui ont été là, ils ont dit, mais Isaïe, t'es malade d'écrire des trucs pareils. C'est sûr que bibliquement, c'est grave. Comme pasteur disent des choses pareilles. Oui. Mes frères et sœurs, Dieu sait où vous en êtes. Il le sait. Et il vous aime. Vous le croyez. Et il y a des choses qui donnent accès au diable. Vous le savez qu'on peut donner accès au diable. Il y a des choses qui sont normales. Elles sont normales dans la vie. Il y a plein de petits trucs. C'est terrestre. Ne voyons pas le diable partout. Il y a des gens, ils diabolisent tout. Ils n'ont pas compris qu'il y a des choses. Il y a plein de choses qui sont terrestres. La colère, c'est quelque chose de terrestre ou c'est quelque chose de... C'est que quelque chose de spirituel. C'est terrestre? Oui. Faites mourir dans vos membres ce qui est terrestre, la colère, etc. Mais la colère, si ça, vous savez pas, c'est terrestre, je me mets en colère parce que je me suis laissé emporter par une situation. Voilà, bon, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Je me suis mis en colère, je me suis disputé avec David. C'est ça, on s'est disputé ? Un peu. Je me suis disputé avec David, il avait tort quand même, c'est sûr. Puisque c'est moi le pasteur, j'ai automatiquement raison, tu es d'accord ? Mais le soleil, je dois aller le voir. J'ai dit, écoutez David, je viens vous demander pardon. C'est ça être chrétien. Parce que de suite après, il est dit que si le soleil se couche sur notre colère, il est ajouté, ne donnez pas accès au diable. Donc ce qui est terrestre, ce qui est charnel, ce qui est normal, le fait que Dieu dit, si vous vous mettez en colère, ça fait comprendre qu'il y a une certaine condescendance de la part de Dieu, que l'on puisse, ça peut arriver. Mais le problème, c'est quand on laisse les choses s'installer, on ne les règle pas, on dit c'est pas grave, c'est pas important, la colère, tu parles, c'est rien, je verrai David dans 15 jours, on doit se revoir, etc. Mais lorsqu'on commence à avoir de la colère contre un frère, on ne l'aime pas. Et la Bible dit que celui qui n'aime pas, il est dans les ténèbres. Et si vous n'aimez pas quelqu'un, moi je vous le dis, prenez-le au sérieux. Si vous n'aimez pas quelqu'un, vous êtes dans les ténèbres. Ça peut arriver d'avoir un conflit. Est-ce que ça peut arriver d'avoir un conflit ? Ne vous embarrassez pas de ça, ça arrive. Mais bénissez. Bénissez ceux qui vous maudissent. C'est écrit ça ? Bénissez ceux qui vous persécutent. Pourquoi ? Eh bien c'est pour régler ce véritable problème. Souvent ça commence, on va avoir deux ou trois exemples, ça commence par des broutilles. Caïn, il offre un sacrifice à Dieu. Il a compris par son père Abel et par sa maman, Ève, plein de choses. Ils ont entendu des trucs merveilleux. Il offre un sacrifice à Dieu. Son frère offre un sacrifice à Dieu. Et quand le verdict tombe, Dieu dit, voilà, j'apprécie l'offrande d'Abel, parce que c'est un sacrifice sanglant qui représente le salut par la foi. Et Dieu dit qu'il a rejeté le sacrifice de Caïn parce que les œuvres de Caïn représentent le salut par les œuvres. Et Dieu prend le soin d'aller voir Caïn qui s'est irrité, qui a commencé à avoir un peu de jalousie dans son cœur. Ouais, comment ça se fait? Moi, je me suis cassé la tête à cultiver mes légumes pendant 6 mois, et lui, il a juste pris un agneau qu'il a égorgé. Ah non, mais ça a pris 5 minutes, moi, ça a pris 6 mois. Non, mais ça va pas. Et Dieu va le voir, il lui dit, écoute, Caïn, ne t'irrite pas. Est-ce que tu fais bien de t'irriter? Et il ajoute, le péché se couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. On peut dominer le péché. Dieu lui a parlé. Il n'allait pas bien. Dieu ne l'a pas rejeté. Ce n'est pas parce qu'on ne va pas bien que Dieu nous abandonne. Mais il nous parle. Et ce matin, moi, je crois que Dieu veut te parler. Vous savez que je n'aime pas tutoyer les gens. Mais quand je dis te, quand je tutoie, c'est pour que vous compreniez bien que vous et moi, Dieu veut nous parler. D'ailleurs, on l'a lu là, j'ai parlé, personne n'a répondu, j'ai appelé, personne n'a compris. Dieu ce matin veut te parler. Peut-être que c'est de la jalousie. Peut-être que tu jalouses quelqu'un, je ne comprends pas. Et pourquoi cette collègue, ils lui ont donné le poste alors que moi je ne l'ai pas? C'est pas normal, c'est injuste, je ne comprends pas pourquoi Dieu m'a laissé dans cet embarras. Moi qui suis droite, intègre, qui n'ai jamais piqué une trombone, et les autres là-bas qui sont en train de piquer des... Eh ouais. Ne riez pas, parce que la souffrance est liée. C'est moi qui aurais dû avoir le poste, c'est moi qui marche dans la justice, c'est moi qui prie tous les jours pour mon patron. Et si on avait dit un jour à Caïn, lorsqu'il jouait avec son frère Abel dans la terre à l'époque où elle était, tu sais, Caïn, un jour, tu tueras ton frère. Et il aurait dit, mais tu plaisantes. Et la jalousie a ouvert la porte. Et Caïn a tué son frère. Et pourtant, il venait d'offrir un sacrifice à Dieu. Et quand Dieu dit, mais je hais vos sacrifices, c'est des paroles, et c'est pas une fois, c'est des dizaines de fois où Dieu dit, mais je déteste vos cantiques. Alors, c'est pas les paroles, mais parce qu'on chante des choses qu'on ne vit pas. Et Caïn, il aurait pu dire, mais c'est vrai, pardon. Est-ce qu'il aurait pas pu dire, oh, je te demande pardon. La prochaine fois, Seigneur, je te promets. Ben moi aussi, je sacrifierai un agneau. Est-ce qu'il aurait pu faire comme ça? Ben oui. Quand vous vous trompez, dites, mais Seigneur, pardon. La prochaine fois, ben je ferai bien. Qu'est-ce qu'il faut faire? En plus, Caïn représente depuis la génération, depuis son époque, le malheur à ceux qui ont suivi la voie de Caïn. À tous les gens qui s'imaginent qu'en faisant des œuvres, ils vont être sauvés. Seigneur, tu vois, je donne tous les mois, je donne ma dîme. Seigneur, tu vois les œuvres que je fais, ça me coûte de donner ma dîme. C'est pas parce que vous allez donner votre dîme que vous allez aller au ciel. Vous irez au ciel parce que le sang de Jésus vous a sauvé. Et parce que vous marcherez dans la fidélité jusqu'à la mort. Sois fidèle jusqu'à la mort. Et on se dit, mais c'est pas possible. Vous voyez, la jalousie, tiens, mais. Et ce matin, en préparant ce texte, je pensais à Caïn qui a ouvert la porte au diable. Je pensais aux solutions. Quand Dieu dit, mais soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et il fuira. Résister au diable. Moi, toute la semaine, par rapport à l'étude que j'ai fait mardi soir, par rapport à. Vous savez, j'ai parlé de mardi de ce texte dans Corinthiens 6, où Dieu dit que ceux qui vivent dans l'inconduit, dans la débauche, n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est écrit ou c'est pas écrit? Écoutez-moi, ceux qui vivent dans le désordre, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Et je pensais, parce que j'ai pas eu le temps de le faire en vérité. Tous ces textes où il est dit, mais vous qui aimez l'Éternel, haïssez le mal. Ayez en horreur le mal. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et ces versets, moi, toute la semaine, je les ai médités. Pourquoi? Parce qu'un chrétien, il s'éloigne du mal. Il peut résister au diable. Et le diable, il fuira. Oui ou non? Qui c'est le plus fort? Dieu ou le diable? Quand même. Frères et sœurs, soyons sérieux. Ouvrir la porte. Écoutez bien. Certains pensent qu'ils résistent au diable parce qu'ils prient, Seigneur, je veux. On entend ça. Alors ça peut être vrai, et c'est bien. Mais ce n'est pas parce que je vais lier la puissance des ténèbres. Je lis la puissance des ténèbres au nom de Jésus. Si vous obéissez pas, le diable, il doit rire. Vous pouvez lier les ténèbres tant que vous voulez, utiliser le nom de Jésus tant que vous voulez, ça ne sert à rien. Vous entendez? Vous pouvez dire, Seigneur, nous nous accordons pour lier la puissance des ténèbres. Si vous n'obéissez pas, ça ne sert. Vous allez voir. Vous savez que c'est vrai, mais je veux bien vous l'expliquer. Revenons à Saül. Saül, quand il a été choisi par Dieu, c'était quelqu'un, c'était le meilleur. C'est écrit ou c'est pas écrit? Oui ou non? Est-ce que c'est écrit? C'est écrit, Nicolas? Oui, dis oui. C'est écrit. Quand Dieu a choisi Saül, c'était le meilleur en Israël. Le meilleur. D'une humilité, d'une obéissance, c'est merveilleux. Et Dieu, bien sûr, le choisit. Alors, c'est pas pour ça, c'est pas parce que quelqu'un a une responsabilité que c'est le meilleur, ça veut rien dire. Ne transposons pas ça, ça serait pas correct. Mais il choisit Saül, et puis Saül commence son ministère de roi, et ça va. Il obéit, ça va, tu lui demandes de faire certaines choses. Bon, là, à un moment donné, il s'est loupé un peu, il n'a pas eu confiance, mais enfin bon, ça peut arriver. Et puis intervient sur la scène un certain jeune homme, du nom de David, je crois, qui a la faveur de Dieu. Et un jour qu'il rentre d'une bataille, voilà, Saül, imaginez-vous comment ça s'est passé. Saül, seulement sur son cheval, bien orné, et derrière, ses généraux et David qui marchaient. Pareil, enfin, il marchait à côté sur un cheval, peut-être à pied, j'en sais rien. Et tout d'un coup, les femmes, parce que les femmes, elles sont douées pour composer des cantiques. Elles ont préparé un cantique, et elles étaient là, avec leur mandoline, et voilà. Et Saül a tué ses mille. Ding, 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 ding. Alors j'imagine Saül sur son cheval. Et puis elles ont rajouté, pour la strophe, et David a tué ses 10 000. Pardon? Vous savez, les paroles, comment ça peut nous faire réagir des paroles? Et voilà que Saül a commencé à avoir de la jalousie envers ce jeune qui avait sauvé en plus Israël. Il aurait pu réfléchir un peu. Mais on oublie vite le bien que les gens font. C'est pas vrai ça? On a vite fait d'oublier le bien que l'on a pu faire à quelqu'un. Ça c'est dommage. Bon, c'est un autre sujet. Et Saül a commencé avec de la jalousie. On pourrait dire, bon, c'est pas grave, il réagit mal. Bon, on va demander aux femmes de chanter notre cantique. On va rester là. Mais le problème, c'est que quand vous lisez l'histoire, vous observez que cette jalousie va se transformer en rancune. Et même ce jour-là, s'il y avait un pasteur qui avait été lui dire, au fait, Saül, j'ai un truc à te dire. Écoutez, c'était le roi d'Israël, Salé. Bon, là, il commençait à avoir de la jalousie. Si quelqu'un lui avait dit, tu sais, Saül, j'ai un truc à te dire. Dans quelques années, tu feras massacrer 85 sacrificateurs avec leurs femmes et leurs enfants. Tu consulteras une sorcière et tu te suicideras. Je suis sûr que Saül aurait dit, non, mais mon bon, tu rêves. Et c'est ce qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait ? Quand vous regardez comment cet homme est devenu mais complètement névrosé, malade. Saül, c'est devenu un homme malade. À cause de la jalousie, il a ouvert la porte au diable. Alors nous, bien sûr qu'on peut dire au départ, mais c'est terrestre. Oui, Colossiens, lisez-le avec moi. Parce que c'est ça le problème, c'est que les gens ne comprennent pas le crescendo qu'il peut y avoir. Regardez, la jalousie au départ, je dis bien, c'est quelque chose de terrestre. Colossiens chapitre 3. C'est pour ça, mes frères et sœurs, qu'il faut prier pour avoir du discernement. Est-ce que vous priez pour avoir du discernement ? Lorsqu'on a affaire à quelqu'un, il y a des gens, des fois, ils ne sont pas possédés. Ils ont des problèmes. Il faut du discernement, c'est tout. Colossiens chapitre 3, verset 5. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté. Vous voyez, au départ, tout ça, c'est terrestre. La cupidité n'empêche, au verset 6, que c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. Déjà, ne parlons pas d'adultère, etc., ou de meurtre. Mais regardez au verset 8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, etc. Donc, on peut y renoncer. Il n'y a pas besoin d'une délivrance. Il y a des gens qui veulent une délivrance aussi. Écoutez-moi, la Bible dit, renoncez à ces choses. Si vous êtes colérique, ne dites pas, j'ai besoin d'une délivrance. Renoncez à la colère. Renoncez-y. Là, arrêtons de justifier notre colère en disant, c'est plus fort que moi. Ce n'est pas vrai, c'est que ça te va bien. Donc, ça a commencé par la jalousie. Et vous avez vu comment ça a fini. Saül, le grand roi d'Israël, a consulté une sorcière parce que Dieu ne lui parlait plus. Et pour cause, il aurait dû demander pardon à David. Alors, est-ce qu'on peut demander pardon à des subalternes ? Est-ce qu'on peut demander pardon à quelqu'un qui est en dessous de soi ? Est-ce qu'on peut demander pardon à son épouse ? Est-ce qu'on peut demander pardon à ses enfants ? Eh bien, il l'aurait fait. Il aurait été voir Samuel. Écoute, Samuel, Mais le problème, c'est que il était embarqué. La jalousie, c'est terrible. En enfer, je peux vous dire que Saül et Caïn, ils doivent pas rire à cause de ça. C'est parti de rien, je vous dis. En plus, ils auraient pu, je vous dis, puisque Samuel ou Dieu sont intervenus, donc ils auraient pu prendre la victoire. On pourrait, ce matin, n'importe qui peut prendre la victoire ici, quel que soit l'état dans lequel nous sommes. Et le problème, c'est que cette jalousie entraîne en vérité quelque chose que Dieu dénonce, et qu'écoutez bien, ça y est, j'ai fait mon introduction, la rébellion. Et c'est ça le problème, c'est que les gens deviennent rebelles. Notre monde est rebelle. Vous voulez des explications, vous me croyez ? Notre monde est rebelle. Les chrétiens ne se rendent même pas compte quand ils sont rebelles. Certains enfants de nos enfants ne se rendent même pas compte quand ils sont rebelles. Combien d'enfants aujourd'hui sont rebelles à leurs parents ? Oui ou non ? Mais les gosses, mais ils n'en ont rien à faire. Et je peux vous dire que la rébellion, vous allez voir. Je vais vous laisser trois chapitres que vous méditerez. Vous les méditez, je vais vous les citer, je vais les donner. Et vous regarderez le résultat. La rébellion, c'est l'arme cachée du diable. Combien d'enfants sont rebelles ? Et si vous avez encore vos parents, les jeunes, là, les ados, si vous êtes rebelles, ne imaginez pas que vous obéissez à Dieu. Si vous êtes rebelles, vous obéissez au diable. Vous avez dit, non, monsieur Gauche, je chante des cantiques toute la journée. Eh bien, arrête de chanter et obéis. Mais c'est sérieux. Si vous... Mais combien d'enfants, mais combien aussi de chrétiens parlent mal de leur pasteur ? Tiens donc.
Est-ce que vous me parlez mal de votre pasteur ? David. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai ça qu'il y a des chrétiens qui parlent mal de leur pasteur ?
On peut parler d'une chose qu'il a fait qui n'est pas bonne, vous voyez ? Si j'ai commis une erreur, moi vous pouvez me reprendre, vous le savez, au conseil le savent. On peut parler de certaines choses qui pourraient être commises, c'est pas ça critiquer. Mais combien de gens sont rebelles à toutes les autorités ? Combien de gens parlent mal des gouvernements ? Mais on doit prier, avant toute chose, prier pour ceux qui vous gouvernent. C'est ça, obéir à Dieu. Et moi, tous les jours, je prie pour M. Hollande, pour M. Valls, pour M. Et je peux vous dire que pour le ministre de l'Intérieur, il vaut mieux prier ces jours-ci. Et pour le ministre de la Défense, il vaut mieux prier. Oui ou non ? Quand même. Parce que ça a des influences terribles sur ce qui se passe en Syrie. Et nous devons faire attention, parce que la rébellion, croyez-moi que l'ennemi, il sait comment il faut faire pour détruire, et pour détruire l'Église. Parce qu'il y a des gens qui ont abandonné l'Église, qui abandonnent les Églises. Bon, il y a des Églises qui ne sont plus des Églises. Mais Jésus a dit, je bâtirai mon Église, et il vaut mieux être de son côté que de s'opposer à l'Église. Vous ne croyez pas ? Mes frères et sœurs, ce matin, dans la ville de Toulouse, il devrait y avoir peut-être 10-15 Églises de plus, avec des centaines de gens à l'intérieur. Mais ils ont quitté l'Église alors que Jésus a dit « Je bâtirai mon Église ». Et il vaut mieux être dans l'Église, croyez-moi. Ça, c'est un autre sujet. Mais je le dis parce que c'est la rébellion qui fait ça, que des gens abandonnent les Églises. On doit rester dans l'Église. Jésus l'a bâti. C'est important, mes frères et sœurs, de bâtir l'Église. Bon, si vous êtes là, c'est que vous êtes d'accord, de toute façon. La rébellion, elle ouvre la porte à l'ennemi. Alors je voudrais parler d'un texte vraiment que j'ai reçu avant ce qui s'est passé. C'est dans le livre des Nombres. Vous avez certainement lu le livre des Nombres. Et je voudrais que vous preniez le temps, mais vraiment que vous preniez le temps. Dans le nombre 22, 23, 24 et 25. Mais que je ne sais pas si vous méditez la parole. C'est trois chapitres que je vous demande de méditer. Faites-le, je ne peux pas tout vous dire. Et puis il y a des choses que Dieu voudra lui vous dire. Ça, les gens, ils s'imaginent que toute la révélation vient par le pasteur. Mais non, vous pouvez vous aussi recevoir des révélations. Notez-les, enfin, c'est facile, mettez un post-it. Nombre 22, 23, 24 et 25. Mais s'il vous plaît, frères et sœurs, si vous voulez comprendre comment le diable s'y prend avec même des hommes de Dieu. Alors, je vous résume l'histoire. Israël, tout le peuple d'Israël, les Hébreux, étaient dans le désert, conduits par Moïse. Écoutez bien, parce que il faut que je le résume. Malgré le fait qu'ils étaient dans le désert, ils ont eu des déboires, ils ont entendu le verdict terrible de rester 40 ans dans le désert, mais ça ne fait rien, ils ont eu dans le désert des combats à mener. Ils ont mené un premier combat avec Moïse, et ils ont été vainqueurs. Ils mènent un deuxième combat, une guerre, et ils sont de nouveau vainqueurs. Et ils arrivent dans le territoire où il y a le fameux Balak. Balak, voyant que Israël avait été vainqueur deux fois de suite, a commencé à s'inquiéter. Alors lui, parce qu'il y a des chrétiens qui ne persévèrent pas, laissez-moi vous dire qu'il y a des gens remplis du diable qui persévèrent. Et lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire, il faut que je trouve le prophète. Je vous le résume. Hein. Je vais aller voir le prophète, j'ai appris plein de choses sur cet homme, et apparemment quand il bénit Israël, Israël est béni. Et quand il maudit, ce qu'il maudit est maudit. Donc il faut que je trouve ce type et que je fasse affaire avec lui. Il envoie une émissaire de gars en disant, voilà, écoute, voilà, Balak te demande une chose, c'est de maudire Israël. Et au début, il dit, mais il est hors de question. Il est hors de question, on ne peut pas maudire Israël. La petite cohorte revient auprès de Balak, ils disent à Balak, écoute, non, c'est pas possible. Il veut pas. Allez-y, mais allez, cette fois-ci, allez-y avec la carte bleue. C'est une grosse carte bleue. Ça représente des millions d'euros. Et vous lirez l'histoire, et là, il commence à dire, oui, l'Éternel, il m'empêche. Vous voyez, quand on commence à dire, Dieu m'empêche, c'est pas bon, ça. C'est une grâce quand Dieu nous demande de pas faire quelque chose. Seigneur m'empêche de maudire, et puis il y va, et il magouille. Et en fin de compte, ça ne marche pas.
Et il y a une bénédiction extraordinaire. La bénédiction, on peut la dire. Mais méditez ces chapitres. Même si toute la semaine, ça vous prend du travail, faites-le. Nombre chapitre 23. Vous savez, c'est le fameux endroit où Dieu a été obligé même d'utiliser une ânesse pour parler à un pasteur qui était attiré par l'argent. Même fait, il voulait obéir, mais fait, il y avait un combat terrible. Vous savez, quand on aime l'argent et qu'en même temps on aime Dieu, c'est pas marrant. Hein. Nombre chapitre 23, verset 7. Balaam prononça son oracle et dit « Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois irrité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit ? Comment serais-je irrité quand l'Éternel ne s'est point irrité ? Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. Qui peut compter la poussière de Jacob et dire le nombre du quart d'Israël ? Que je meure de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. » Balak dit à Balaam, « Mais qu'en as-tu fait ? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi et voici tu le bénis. » Alors regardez, mais regardez un petit peu comment il y a des gens dans le mal qui persévèrent. Balak lui dit, viens donc avec moi dans un autre lieu, d'où tu le verras, tu n'en verras qu'une partie. Oui, mais enfin, tu n'en verras pas la totalité. Et de là, maudis-le-moi. Verset 20, voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. Il ne voit pas d'injustice en Israël. L'Éternel, son Dieu, est avec lui. Pourtant, il sortait d'une période de désobéissance, mais il s'était retapé. Il s'était ressaisi. Verset 23. Regardez bien ce verset. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, c'est-à-dire la malédiction, ni la divination contre Israël. Alléluia. Ils étaient dans l'obéissance, on ne pouvait pas les maudire. Est-ce que vous comprenez le cœur de ma prédication ? Il faut lire ces chapitres. Et je vous assure, mes frères et sœurs, que vous comprenez combien le diable, il veut qu'on sorte de l'obéissance. Et Balak, malgré l'argent qu'on lui propose, et les millions d'euros qu'on lui propose, vous regarderez les talents, l'argent que ça représente si vous avez une concordance. Et il ne peut pas, il dit, mais je ne peux pas les maudire. L'enchantement, la divination, la malédiction ne peut rien contre Israël. Et ça s'arrête là pour quelques jours. Et puis, Balaam, il a fait quelque chose de terrible. C'est sous-entendu, on va le lire dans l'Apocalypse. Il a été voir, alors écoutez bien, parce que ça s'est passé comme ça, c'est obligé. Vous allez comprendre avec le texte que je vais vous lire. Écoutez bien, frère, ça fait pitié quand on voit cet homme de Dieu. Comment il était, cet homme qui avait les yeux ouverts? Il a dû aller voir Balak et il a dit, écoute Balak, on ne peut pas maudire Israël. On ne peut pas maudire, mais moi je peux t'expliquer comment les placer sous la malédiction, je peux te le dire. Un homme de Dieu, pour de l'argent. Ah bon? Et Balak il a dit, ah mais bon, dis-moi qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien écoute, tu sais ce qu'il te faut faire? Tu vas infiltrer dans le camp d'Israël des Madianites, des femmes, qu'elles y aillent avec leur vase là, leur idole, que ces femmes couchent avec et qu'elles adorent leurs idoles. Et voilà. Et voilà ce que le pasteur a fait. Nombre 25. Israël demeurait à Sittim. Le peuple commença à se livrer à la débauche. Je vous rappelle, la malédiction ne pouvait rien. Ni la divination, ni la sorcellerie, rien. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, un faux Dieu. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. Alors, attendez, verset 7. À cette vue, parce qu'il y a, et puis on ne disait rien, hein. Il y a un homme qui va coucher avec une femme sous la tente, sous les yeux de Moïse. Non, mais vous savez, l'aveuglement, ça vous... Verset 7. À cette vue, Phinès, fils d'Éléazar,
fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et les perça tous les deux. L'homme d'Israël puis la femme par le bas-ventre. Et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il n'empêche qu'il y en a eu 24 000 qui moururent de la plaie. Et ce que la divination, la sorcellerie, la malédiction n'a pas pu faire, la désobéissance l'a fait. Et il y a plusieurs textes, mais celui qui me revient le plus souvent, c'est celui de l'Apocalypse. Avant l'Apocalypse, vous savez, il y a le livre de Jude. Et il est parlé de ces trois hommes que je citais tout à l'heure qui indiquent vraiment la malédiction. Jude, verset 11. Il est parlé de Caïn à cause de la jalousie, vous voyez. Parce qu'il a voulu, monsieur, être sauvé par les œuvres. Jude, verset 11. « Malheur à eux, parce qu'ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Ils se sont perdus par la révolte de Coré. » Bon, ça c'est pareil, c'est la rébellion contre l'autorité. Coré ne supportait pas que Moïse, Myriam et comment il s'appelle, Aaron, aient reçu l'autorité. Et ils se sont révoltés et le sol s'est ouvert sous leurs pieds. L'égarement de Balaam. C'est quoi l'égarement de Balaam? Eh bien, voyez, dans l'Apocalypse, au chapitre 2, regardez bien ces choses, mes frères et sœurs. Elles ont été écrites pour qu'on réfléchisse à ce que la désobéissance, il y a beaucoup de gens, la désobéissance, c'est pas grave. La désobéissance est aussi coupable que la sorcellerie. C'est pour moi qu'il est dit. Apocalypse 2, verset 14. Dans cette église qui était devenue le trône de Satan, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Verset 14, regardez bien. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a dû avoir une discussion entre Balak et Balaam au sujet d'un bon conseil à donner. J'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignaient à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Et ça, je peux vous dire que ce n'est pas venu de Balak, c'est venu de Balaam, puisque c'est écrit. C'est Balaam qui a enseigné Balak à désobéir à Dieu pour que la malédiction vienne sur Israël. Et je comprends pourquoi il est dit « malheur à ceux qui suivent la voie de Balaam ». La voie de Balaam, c'est la voie de la désobéissance. Mais il y a plein de chrétiens, il y en a peut-être parmi nous. Et s'il y en a parmi nous, mais réveillez-vous. Et ne vous imaginez pas que si vous vivez dans la désobéissance, vous allez être enlevé. Et si vous mourrez ce soir, parce que ça peut arriver, vous allez partir au ciel. Si vous vivez dans la débauche, si vous vivez dans l'adultère, si vous priez les idoles, il y a des gens qui disent « Oh, mais c'est pas grave !» L'autre jour, un des stagiaires me racontait qu'il a été dans une église où une femme qui va à l'église disait « Moi, je ne peux pas m'empêcher de prier Marie. » Quand on prie Marie, on prie qui? On prie les morts. On prie une idole. Et la Bible dit que quand on prie les morts et quand on prie une idole, c'est une abomination. On admire Marie comme on admire Moïse et Josué. C'est des gens admirables, c'est des gens formidables. Mais on ne les prie pas. Et si vous priez les morts, vous commettez une abomination devant Dieu. Vous pouvez le sentimentaliser tant que vous voulez. Oui, mais Marie, c'est une femme. Elle peut me comprendre. Écoutez bien, vous allez comprendre quelque chose. C'est que vous n'allez pas vous retrouver avec elle en tous les cas. Et ces textes, ils sont sérieux. Bon, quand on voit la Caïn, bon, ça commence avec la jalousie. On dit, ouais, c'est pas grave et tout. La haine est rentrée dans son cœur. Mais ce texte vous montre que la désobéissance, c'est terrible. Vous vous rendez compte, pour de l'argent, ce pasteur, ce qu'il a fait? Mais aujourd'hui, quand on ne dit pas la vérité aux gens, c'est pas mieux, hein? Quand on dit aux gens, mais c'est pas grave, si vous vivez dans le concubinage, c'est pas grave, Dieu voit votre... Dieu voit. Les gens, vous voyez, ils ont le culot de dire, mais Dieu voit votre cœur, Dieu voit votre sincérité. Mais c'est pas la sincérité qui sauve. C'est la sainteté qui sauve. C'est l'amour de la vérité. Et si vous vivez dans la désobéissance, moi je vous le dis, vous irez en enfer. Parce que l'obéissance, elle est aussi coupable que la divination. La résistance, c'est quand Dieu me montre quelque chose et que je ne le fais pas, est aussi coupable que l'idolâtrie. Je l'ai dit l'autre fois, vous avez rigolé, mais ne riez pas. Vous me verriez, je ne sais pas s'il y a un temple bouddhiste à Toulouse, je ne sais même pas s'il y a un temple bouddhiste. Personne qui va dans un temple? Non.
Imaginez qu'il y a un temple bouddhiste. Vous passez devant le temple, les portes sont ouvertes, et vous me voyez en train de prier Bouddha. Vous diriez, oh là 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 là, le pasteur, il a un petit problème. Qu'est-ce que vous diriez ? Le pasteur, il a vraiment un problème. Eh bien écoutez, mais on va le lire, parce qu'il y a des gens qui le... Je sais que vous me croyez, mais il y a des gens, ils ne lisent pas la Bible. C'est ça le problème. Mais c'est grave, mes frères et sœurs. L'autre jour, il y a une chrétienne, ça fait 7 ans qu'elle est convertie. Écoutez bien. 7 ans qu'elle est convertie. 7 ans qu'elle est baptisée. Elle me demandait si on pouvait prier les morts. Moi, je ne sais pas. Je ne veux pas me comparer, parce que c'est ridicule de se comparer à quelqu'un. Mais moi, je me souviens, je n'avais jamais ouvert la Bible quand je me suis converti. 3 semaines après, j'avais lu le Deutéronome. Bon, je n'avais pas lu le Lévitique parce que je ne comprenais pas grand-chose. Et je sautais les livres, mais je suis arrivé au Deutéronome, et j'ai dit que celui qui... Il est écrit que celui qui invoque les morts, c'est une abomination. Je n'ai pas eu besoin de 3 prédications. Ça faisait 3 semaines que j'étais converti. J'étais un ancien catholique, et je n'ai plus jamais prié les morts. C'est la preuve, mes frères et sœurs, que les gens ne lisent pas la Bible. C'est grave, hein. 1 Samuel, c'est quand il reprend Saül. Monsieur s'imagine qu'il obéit. Il dit « j'obéis ». Mais il y a plein de chrétiens comme ça. J'obéis. Il le dit d'ailleurs. Hein. Où c'est qu'il le dit ? Voyez au verset 13, 1 Samuel 15, verset 13. Samuel se rendit auprès de Saül et lui dit, et Saül lui dit, « Sois béni de l'Éternel. J'ai observé la parole de l'Éternel. » Il y a plein de gens, ils s'imaginent, parce qu'ils vont au culte ou parce qu'ils font quelques petites prières, ils observent la parole de Dieu. Ce n'est pas tout à fait ça, observer la parole de Dieu. Et regardez le verdict qui suit l'histoire de l'Église depuis cette époque. 1 Samuel 15, verset 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices ? Normalement, oui. Si c'est fait dans l'obéissance. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. La graisse des béliers, pour nous, c'est la louange, vous voyez ? Mais quand vous obéissez, c'est plus beau que quand vous louez Dieu. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Ces versets, vous devriez les apprendre par cœur. Par cœur. Et le Saint-Esprit vous les rappellera. La désobéissance est aussi coupable que la divination. La désobéissance a amené la malédiction. Et franchement, quand je vois que des hommes de Dieu aujourd'hui font un compromis pas possible, parce que c'est facile de critiquer Balaam, c'est facile de le critiquer, mais moi, mes frères et sœurs, quand dans les églises, on ne prêche plus la sainteté, quand on ne prêche plus la vérité, quand on ne prêche plus la repentance, quand on ne prêche plus l'obéissance, eh bien, quelque part, on fait pareil. Et quand on dit, mais c'est pas grave, tu peux prendre la Sainte-Seine, c'est pas grave. Dieu, comme je dis, Dieu regarde ton cœur. Non, tu peux pas prendre la Sainte-Seine. Si vous vivez dans la débauche, si vous vivez dans le péché, repentez-vous, après vous la prendrez. Mais repentez-vous vraiment. David, il a péché plus que Saül. David, il a menti, il s'est fait passer pour fou. David, il a fait des péchés plus graves que ceux de Saül. Oui ou non ? David, moi, à choisir, je prends le péché de Saül de suite. De suite à choisir. Saül, David a été odieux, malgré le fait que c'était un homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, il s'est fait piéger. Mais il s'est vraiment repenti. Il s'est vraiment repenti. Il n'a pas dit, ouais, c'est la faute à lui, c'est la faute au diable, c'est la faute à la femme. Non, j'ai péché contre l'Éternel. Et c'est comme ça qu'on doit prendre la Sainte-Seine. Seigneur, je veux obéir. Quand vous obéissez, vous n'avez peur de rien. C'est comme ça. L'obéissance, elle vous met en sécurité. C'est plus fort que vous-même. Quand vous obéissez, vous vivez dans l'assurance. C'est pas la peine de dire deux mots de l'assurance. Vous avez de l'assurance. Quand vous obéissez, vous n'avez pas besoin de chanter « Règne en moi ». Quand vous obéissez, Dieu règne en vous. Mes frères et sœurs, ce sont des choses sérieuses. Alors, une petite explication. C'est vrai que quand on désobéit, ça va mal. Mais il peut arriver qu'on obéisse à Dieu, et que malgré le fait qu'on obéisse à Dieu, on soit aussi dans l'épreuve. Caïn, Saül, Balaam, on pourrait citer hélas d'autres exemples, se sont retrouvés vraiment maudits parce qu'ils ont désobéi. Mais je voudrais que vous reteniez quelque chose. Écoutez bien, c'est la conclusion. Joseph, le patriarche. Joseph, lui aussi, s'est retrouvé dans une citerne à cause de la jalousie de ses frères, qui n'ont pas accepté que ce jeune homme, un jour, pourrait régner sur leur vie. Ils n'ont pas accepté, la jalousie les a amenés loin. Et Joseph va se retrouver, par la grâce de Dieu, amené en Égypte, mais il est jeté dans une citerne, on lui déchire les vêtements, on a dû le taper, etc., etc., etc. Il se retrouve esclave. Et plus il obéit, plus il est éprouvé. Vous êtes d'accord avec moi? Vous voyez? Parce que ne dites pas de quelqu'un, tiens, il est dans l'épreuve, c'est qu'il est désobéi. Ne jugez pas. On ne peut pas savoir. C'est pas parce que quelqu'un est dans l'épreuve qu'il désobéit. Vous me suivez? Non, mais c'est vite fait, après une prédication comme ça, de dire, ouais, mais le gars, il est dans l'épreuve, eh bien, M. Gros, il a dit ça, ben, il doit être jaloux. Non. Joseph était dans l'obéissance. Et il a traversé des épreuves. Et plus il obéissait, plus il était éprouvé. Mais la grâce de Dieu était toujours avec lui. Et quand vous lisez l'histoire de Joseph, vous voyez cet homme qui est dans l'épreuve, mais comme il obéit, la faveur de Dieu est sur lui. Et c'est là qu'on reconnaît quelqu'un qui, malgré l'épreuve, est dans la désobéissance ou dans l'obéissance ou la désobéissance. Vous m'avez compris? Parce que quand vous êtes dans l'épreuve, parce que vous obéissez, la faveur de Dieu, elle est sur vous. Alléluia. Et regardez, vous regarderez l'histoire de Joseph et vous verrez combien il est stipulé, le Saint-Esprit l'a voulu, la grâce de Dieu reposait sur Joseph. Oui ou non? Et pourtant, il était dans l'épreuve. Je ne sais pas où vous êtes. Je sais ce que c'est les épreuves. Je le sais. Tout le monde sait ce que c'est les épreuves. Mais la question que je vous pose, moi, c'est pas est-ce que vous êtes dans l'épreuve parce que vous obéissez? La question, elle est, si vous désobéissez, vous ouvrez la porte à la malédiction. À propos du Seigneur, protège-moi. Imaginez, je vis dans l'adultère. Et que vous m'entendiez dire, Seigneur, je t'en supplie, par ton sang précieux, protège-moi. Vous pourriez me taper sur l'épaule et me dire, mais arrête. Arrête. Oui ou non? C'est du cinéma, ça. C'est pour ça que Dieu dit, mais je déteste vos prières, je déteste vos cantiques. Alors, je ne parle pas pour nous, mais ça peut arriver. Si vous vivez dans la désobéissance, vous êtes concerné. Ça, c'est clair. Si vous vivez dans la désobéissance, moi, je vous dis, repentez-vous. Pas ce soir. Parce que vous pouvez mourir entre maintenant et ce soir. Et moi, je peux vous dire, écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que c'est Dieu qui me l'a révélé. En enfer, ça va chauffer en enfer. Parce qu'il y aura des pasteurs en enfer. Il y en aura des Balaam en enfer. Des pasteurs qui n'auront pas dit ces choses. Parce qu'on a peur de perdre les gens. Si je parle sur ce sujet, moi, vous savez ce qu'un pasteur a dit dernièrement à un de ses stagiaires? Il a dit, si j'invite M. Gour à prêcher dans mon église, il y a la moitié de l'église qui s'en va. Et vous voyez, ils ne sont pas fous. Mais en enfer, les pasteurs, ça va aller mal. Parce qu'il y a des gens qui vont leur dire, mais c'est ta faute. Parce que tu ne me l'as pas dit. Tu aurais dû nous le dire, oui ou non? Mais oui. C'est pour ça que moi, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez vivre dans le péché, mais vivez dans le péché. C'est votre problème, bien sûr que ça me fait de la peine. Mais c'est votre problème, ne vous inquiétez pas. Enfin, c'est dommage. Parce que Dieu respecte notre libre arbitre. Si vous voulez obéir, eh bien, c'est une joie d'obéir. Si vous voulez vivre dans le péché, mais vivez dans le péché. Je le dis parce que Jésus a dit à la fin, celui qui se souille, eh bien, qui se souille. Hein. C'est écrit ou c'est pas écrit? Que celui qui se souille, eh bien, qui se souille. Que celui qui se sanctifie. Et ce matin, nous sommes venus dans la maison du Seigneur parce qu'on veut se sanctifier. Et parce qu'il faut réaliser ces choses. Oui, il y a des choses aussi graves que la divination, la sorcellerie, la malédiction. C'est la désobéissance. Et mes frères et sœurs, ayons cette grâce d'obéir. Vous avez vu que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Pour vous faire un plaisir, c'est Dieu qui affirme. Celui qui m'aime, vous le savez, c'est celui qui garde la parole. Celui qui m'aime, je le délivrerai. Alléluia. Celui qui m'aime, je le protégerai. On l'a lu tout à l'heure, on était debout devant le Seigneur. Ce n'était pas devant moi que vous étiez debout. On était debout devant le Seigneur. Celui qui m'aime, je le protégerai. J'ordonnerai aux anges de le protéger. C'est Dieu qui le dit. Et si vous obéissez, les anges vous protègent. Vous ne les voyez pas ? Tant mieux. Les anges vous protègent. Moi, je le crois. Oui, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, mes frères et sœurs. En tous les cas, veillez. Lisez la Bible. Il y a des gens qui croient n'importe quoi. Moi, je suis peiné. Je reçois des mails tous les jours. Monsieur Gauche, j'ai une question à vous poser. Mais lisez la Bible. On va se recueillir quelques instants. Je ne sais pas si vous aimez la vérité. Je vais demander à Monsieur de Dieu de choisir des frères, s'il vous plaît. Recueillons-nous. C'est le moment où vous et moi, nous devons répondre à Jésus. Maintenant. Pendant qu'on prend la Sainte-Seine, ce petit quart d'heure qui nous reste, ou c'est 20 minutes ou 25, est-ce que ça ne vaut pas la peine de prendre une victoire là ? En tous les cas, si vous obéissez, vous êtes plus que vainqueur. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul a dit un truc affreux. Enfin, c'est pas Paul, c'est Dieu qui l'a dit. Que ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité, Dieu leur envoie une puissance d'égarement. Afin qu'ils croient au mensonge. Vous vous rendez compte ? Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Si vous ne croyez pas ces choses, vous aimez le mensonge. Et vous serez aveugle et vous irez en enfer. Si vous appréciez cette vérité, Dieu vous ouvrira les yeux, vous prendrez des victoires. Parce que ce n'est pas la vérité de monsieur un tel, c'est la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers, c'est-à-dire que toute la louange. Il y a des gens qui louent Dieu, ils écoutent des cassettes toute la journée chrétienne et ils sont dans la rébellion, ils s'imaginent que ce sont des adorateurs. Ce n'est pas des adorateurs, c'est des rebelles. Et je m'adresse à nos enfants qui sont au milieu de nous. Est-ce que vous respectez vos parents ? Les adolescents, vous qui n'êtes pas encore baptisés, est-ce que vous honorez vos parents ? Moi je vous le dis. Si vous n'honorez pas vos parents, vous vous mettez en danger parce que vous ouvrez la porte au diable. On va demander au Seigneur sa grâce, vraiment. Parce que, quelle que soit la conclusion que je peux donner à ce message, je pourrais utiliser, vu ce que j'ai dit, je pourrais utiliser beaucoup de sévérité. Ou inversement, beaucoup de bonté. Une chose est sûre, c'est que la porte est ouverte. Que Jésus est assis sur le trône de la grâce. En tant que souverain sacrificateur, il intercède pour nous. Il est venu comme sauveur, comme l'agneau de Dieu. En ce moment, il est dans son rôle de souverain sacrificateur. Il intercède pour vous, pour que nous ayons la victoire. Mais quand il va revenir comme le Seigneur des Seigneurs. Et laissez-moi vous dire, il vaudra mieux avoir fait la paix avec lui quand il va revenir. Alors je vais demander à ceux qui sont baptisés par immersion d'avoir mais la joie de se lever. Mais vraiment, je ne sais pas si vous comprenez mes paroles. Est-ce que c'est une joie ? Si je vous ai fait lever pour lire, c'est la même chose. Est-ce que ce n'est pas une bénédiction de se lever avec la parole de Dieu ? Alors levez-vous, mes frères et sœurs. Mais levez-vous avec cœur, devant le Seigneur. C'est devant Dieu que vous êtes. Seigneur Jésus, je me lève devant toi. Je vais prendre ce pain, je vais prendre la victoire. Parce que la croix, c'est la victoire. Qui a besoin d'une victoire ? Seigneur, je veux abandonner. C'est vrai que je n'obéis pas. Je chante, je prie, je fais ça, je prêche, tatati, tatata, mais je n'obéis pas. Mes frères et sœurs, le juste a de l'assurance. Le juste, il sait que quelle que soit l'épreuve, Dieu le prendra. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, dit le Seigneur. Alors on peut rester dans le recueillement, vous pouvez dire, dites au Seigneur ce que vous avez à lui dire. Faites comme Anne, elle faisait que remuer les lèvres, mais je peux vous dire que ça payait, croyez-moi. Elle faisait que remuer les lèvres, elle était en souffrance, elle était anorexique, elle était dans l'amertume, tout allait mal. Mais elle était dans le temple. Et son cœur parlait à Dieu, personne n'a entendu, personne, il n'y a que Dieu qui entend. Et son visage ne fut plus jamais le même. Alors dans le secret de nos cœurs, avant que le pain et le vin ne passent, et après, et pendant, parlez à Jésus, parlez-lui, il vous exaucera. Cette prière-là, il exaucera. Il ne méprise pas la prière du misérable. Les ados,
les ados, repentez-vous et convertissez-vous parce que vous allez vous retrouver bientôt tout seul dans votre maison. Écoutez-le. Vous ne pourrez pas dire qu'on ne vous l'a pas dit. Les inconvertis, les conjoints d'inconvertis, s'il y en a quelques-uns parmi nous, repentez-vous. Parce que vous allez vous retrouver tout seul dans votre maison de ces quatre. Vous avez entendu les prophéties ? Réveillez-vous. Réveillez-vous. Vous avez entendu les prophéties ? La porte va bientôt se fermer. Nous te bénissons pour le calvaire. Et nous te bénissons pour ta parole. Merci pour ton sang qui a coulé. Merci d'avoir abandonné ton ciel pour mourir comme tu es mort, à notre place. Mais sans ta parole, Seigneur, franchement, sans ta parole, je ne sais pas si on aurait pu rester fidèle. Alors nous te remercions pour la croix, pour le sang versé, et nous te remercions pour le jour où cette parole a été traduite en français, vraiment du fond du cœur, Seigneur. Merci.